Tioumine, en Sibérie. Mazyr, en Biélorussie, à 40 km de l'Ukraine. Depuis le mois d'avril 2021, la Russie déploie son armée à la frontière ukrainienne. Et à l'hiver 2022, ce déploiement s'est accéléré.
Et oui, le Panthéon des Cousus aussi a changé ses plans et vous emmène dans cette région du monde, au bout de l'Europe. J'ai enregistré cette émission au premier jour de l'invasion. Une chose est sûre, si tous les chemins mènent à Rome, en prenant la route plein est, vous tomberez sous la guerre. Là-bas, à peine plus de 2000 km du Mans. Une vraie guerre avec des bombes, des morts et de l'horreur. Mais bon, avec cette pastille internet du journal Le Monde le 6 février dernier qui revient sur 10 mois de vidéos de type TikTok, on ne pourra plus dire qu'on ne pouvait pas savoir.
Par centaines, des vidéos montrant de l'équipement militaire russe en déplacement ont été publiées sur les réseaux sociaux. Associées à des images satellites que nous avons pu collecter, elles permettent de mesurer l'ampleur de l'opération militaire menée par la Russie.
Bonjour et bienvenue dans cette 20e visite de la saison 5 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa et radioalpa.com. Cette semaine, regard sur un tout petit aspect des origines de cette guerre, peut-être le plus humain de tous. Mais avant ça...
Février 2022. À moins de 250 km des frontières ukrainiennes, au moins 15 camps militaires ont vu une augmentation inhabituelle de leur matériel de guerre. C'est le cas de celle-ci, à 20 km des frontières ukrainiennes. La voici. Le 7 septembre 2021, puis trois mois plus tard, le 5 décembre. Le nombre d'appareils a doublé. On distingue notamment des pièces d'artillerie et des véhicules blindés. À 250 km des frontières ukrainiennes, la base de Yelnya est celle qui connaît le déploiement le plus important. Au total, sur ces images satellites du 19 janvier 2021, on dénombre 1516 véhicules. Sur cette image du 29 décembre 2021, 239 tentes ont été installées. 21 jours plus tard, le 19 janvier 2022, la neige qui les recouvrait a fondu sur une partie d'entre elles, signalant une présence humaine. Pendant ce temps, en Russie, des dizaines de vidéos montrent le même équipement militaire en train d'être déplacé. Dans cette vidéo, publiée le 18 janvier 2022, on observe des véhicules bâchés sur des trains. Dans la même période, plusieurs vidéos montrant des véhicules bâchés de façon identique ont été publiées sur les réseaux sociaux. La forme de ce châssis correspond à celle des véhicules du système de missiles balistiques dit Iskander. Ce système, capable d'atteindre sa cible dans un rayon de 500 km, peut être armé de missiles conventionnels ou nucléaires.
Rien de rassurant. Promis, je ne me lance pas dans la géopolitique, je ne suis pas là pour ça. Le 13 février, Le Monde, toujours, a publié une autre pastille avec cet extrait.
Janvier 2022. Des rencontres ont lieu entre la Russie, les États-Unis et des représentants de l'OTAN. La Russie, qui a demandé ses pourparlers, n'arrive pas les mains vides.
Bah tiens.
Elle pose sur la table ses documents. Des projets d'accord entièrement rédigés avant même les négociations. Ne manquent que les signatures. En l'acceptant, les membres de l'OTAN devraient ainsi s'engager
à s'abstenir de tout nouvel élargissement de l'OTAN, y compris l'adhésion de l'Ukraine ainsi que d'autres États. Ne pas mener d'activités militaires sur le territoire de l'Ukraine ainsi que sur d'autres États d'Europe orientale, du Caucase du Sud et d'Asie centrale.
Des exigences loin d'être anecdotiques.
Ça allait tellement loin déjà comme première revendication que ça paraissait presque incompréhensible.
D'autant que Vladimir Poutine exige une réponse rapide.
Vous devez donner des garanties, et немедленно.
Сейчас. Tout de suite.
En parallèle, il a positionné 100 000 soldats russes aux frontières de l'Ukraine. Bref, si ce n'est pas un ultimatum, ça y ressemble fortement.
Allez, premier extrait de musique ukrainienne avec l'ouverture d'un opéra de Mykola Lysenko, né entre Kiev et le Donbass en 1842.
Ah.
Vous doutez bien que je n'ai pas choisi cet extrait de Lysenko par hasard. Non pour son côté patriotique, mais parce qu'il s'agit de Taras Bulba. Taras Bulba, héros de l'écrivain Gogol, est un cosaque ukrainien forcément valeureux et picaresque. Livre qui a également donné des films, dont celui avec Jules Breiner, parrain de Charles Gainsbourg, à qui l'on a rendu visite récemment.
André Elastan, Sons of Taras. What's the Latin for vodka?
Romans didn't drink vodka.
That's why the Roman Empire fell.
Scholars.
Some men are lovers, they work undercovers, and from ladies' bed to ladies' bed they lead.
Que c'est pittoresque et anachronique. Il y a bien 20 ans entre la publication du roman et la création de la chanson. Jules Breiner et Tony Curtis qui ne passent pas inaperçus quand il se fait adouper.
André ? Astat, take these horses with your father's blessing.
Kneel.
À genoux.
I am the oldest living Cossack.
But I refuse to die sitting on an oven. Now you two start some fighting. And give an old Cossack a chance to die the way he should.
Welcome to the Cossack Brotherhood.
Ça m'impressionne toujours autant de comprendre le vieux cosaque parler anglais. Et alors, en français, hé.
Alors, on refuse de se battre? Vous crevez de faim. Quand vous mangerez des cancres là, vous quitterez vos remparts. Mais mes amis seront là.
De Franz Waxman pour le Taras Bulba de 62 est elle aussi en technicolor. Le Panthéon décousu et Radio Alpa, grâce à Euronews, ici en 2012, vous convie tous au sud de l'Oural et au nord du Kazakhstan à la rencontre des Cosaques actuels.
Un détachement de Cosaques patrouille dans les rues de Piatigorsk, une station balnéaire célèbre pour ses sources d'eau minérale. Dans de nombreuses régions de la Russie, l'identité ethnique et culturelle cosaque est de plus en plus forte.
Dans les mots de notre grand romancier Léon Tolstoï, les Cosaques sont ceux qui ont créé la Russie. Ils ont aussi toujours été l'avant-garde en développant et en maintenant les frontières de la Russie. Ce sont avant tout des guerriers. Les gens applaudissent quand ils voient les Cosaques. Regardez, les Cosaques sont à cheval, tout va bien.
Mais où crèchaient les Cosaques? Réponse en 2014 avec ce reportage d'un média 100% pro-russe, là aussi vous êtes prévenus.
Ils se sont développés entre le Don et la Volga, puis autour du Dniepr et en Ukraine, et se reprendront jusqu'au détroit de Béring. Les Cosaques se rattachent non à une ethnie, mais à un mode de vie. C'est sous le règne de Catherine II qu'ils intégreront les armées impériales et nombre d'entre eux combattront aux côtés des troupes blanches lors de la guerre civile russe de 1917-1923.
Désolé, la voix est mal audible, question du mixage originel.
Nous nous sommes rendus au musée des Cosaques de la garde impériale où nous avons pu rencontrer Alexandre Bobrikov, son conservateur. Qu'est-ce qu'un Cosaque ?
Le mot Cosaque en russe veut dire homme libre. Ça pouvait être des paysans qui avaient été libérés, mais ça a été surtout des hommes libres qui avaient choisi la liberté, qui s'étaient retirés et ils formaient une espèce de milice de garde frontière. Ces communautés s'étaient développées à la lisière des provinces et des grandes villes russes.
Grâce à Catherine II, ou à cause de Catherine II qui les a enrégimentés, et au lieu d'être des pirates, ils étaient devenus des corsaires, mais de terre. Ils étaient là pour protéger les frontières.
Conquérants, explorateurs, les Cosaques ont été un des éléments de l'expansion de l'Empire russe.
Et les tsars de Russie se sont appuyés sur les Cosaques. Et lutter contre les Tatars, ces peuplades d'Asie, avaient occupé la Russie pendant 3 siècles. Ils attaquaient les Turcs et les Perses. Parce que de quoi ils vivaient, les Cosaques ? Ils louaient leur service, ils se servaient auprès des peuplades des tribus voisines. Ils allaient aussi un petit peu piller les marchands russes, taxer les marchands russes.
Pour se faire pardonner, ils acceptent de protéger des industries impériales dans l'Oural.
Ils sont partis de là, les Cosaques, il y a 500-600 Cosaques, ils ont conquis toute la Sibérie. Ils sont arrivés jusqu'au détroit de Bering. Le détroit de Bering a été découvert par Diezhniev, 40 ans avant Bering. Bering n'a fait qu'explorer le détroit. L'Alaska était russe, était conquise par les Russes.
Alors, comme pour la visite autour de l'Action française, parfois il faut aller boire une source moins appétissante. Ici, c'est Olivier Molin qui officie à Valeurs Actuelles après être passé par Radio Courtoisie et Minute, ce qui situe assez bien le personnage.
Et alors, ce qui vous a intéressé, c'est donc l'image, toute cette image des Cosaques, ces hommes libres, ces rebelles, ces gens, ces coureurs de steppe, des marginaux, mais aussi des rebelles. Alors, même si certains disent que c'est devenu quasiment un peuple, à force d'avoir les mêmes mœurs, d'avoir les mêmes... Enfin, à l'origine, c'est pas un peuple, les Cosaques. Je crois qu'à l'origine, c'est des Mongols dans les steppes qui sont rejoints par des paysans qui refusent le servage, qui sont rejoints par des aventuriers. Et tous ces gens-là s'agrègent et forment une communauté, avant tout, de guerriers.
Donc, avoir l'esprit Cosaque, c'est vrai qu'il y a une discipline avec une certaine liberté, mais les règles sont là. On les respecte.
Ce qui nous a intéressé aussi, c'est que les Cosaques sont finalement... c'est des guerriers, mais qui avaient dans le... qui vivaient dans leur village fortifié d'un point de vue d'une vraie démocratie. Non pas une démocratie comme on connaît aujourd'hui, mais une vraie démocratie. Je crois même que certains penseurs anarchistes russes saluaient en leur temps la démocratie sociale des Cosaques, notamment Bakounine. Si vous vous souvenez bien, Bakounine a écrit quelques pages sur la démocratie des Cosaques.
Les Cosaques élisaient leur chef, jusqu'à Pierre le Grand. C'est ce qui se passe au Maïdan. Le Maïdan, c'était la place où s'exerçait le pouvoir. Et les Cosaques se réunissaient en cercle, et élisaient leurs chefs. Les chefs cosaques, l'ataman, le guetman, chez les Ukrainiens, était élu. Il était, tant qu'il plaisait, tant que ça allait, il restait le chef, sinon on le virait, on n'était pas élu pour 4 ou 5 ans. Notamment Platov commandait les cosaques pendant les guerres napoléoniennes. Campagne de Russie 1812, 1813, 1814.
Ce sont les fameux Cosaques qui, campant sur les Champs-Élysées, encore à la campagne, ont importé avec leur grand soif le mot bistrot dans les cafés parisiens, vite, vite. Retour à Euronews.
J'ai rassemblé tous ces souvenirs pour que mes enfants comprennent mieux qui étaient leurs aïeux. Les murs des maisons cosaques étaient toujours décorés d'armes, de tableaux et de photographies. Plus de 90% des documents témoignant de l'histoire des Cosaques ont été détruits par les bolcheviks. Ils nous ont volé notre mémoire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait plus aujourd'hui. Voici des photos de mes arrière-grands-parents et de mon second arrière-grand-père. Alexander Kopilov, de la Stanitsa de Kazanskaya, pendant et avant la Première Guerre mondiale. Il a dû se cacher pour échapper aux bolcheviks. Semyon Shukov, de la Stanitsa de Shukovskoy. Il a été capturé par les bolcheviks et il a été fusillé.
Après leur arrivée au pouvoir, les bolcheviks ont mis en place une campagne de répression en essayant d'éradiquer les Cosaques qu'ils considéraient comme une force réactionnaire opposée à la lutte pour la liberté du peuple.
Des Cosaques ont été exilés en Sibérie. Les plus rebelles ont été exécutés. D'autres sont restés, ont été les gardiens des traditions.
Quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ils savaient qu'ils ne parviendraient jamais à soumettre les Cosaques, qui avaient une mentalité très indépendante. Ils ont donc décidé de les anéantir. Il y a eu des exécutions et des massacres de masse dans toutes les stanitsas. Sur cette photo, on voit ce qui s'est passé en 1918 et en 1919 le long du Don. C'était un véritable génocide. Ceux qui parvenaient à échapper au massacre fuyaient à l'étranger. Et le génocide culturel est aussi épouvantable que le génocide physique, parce qu'il se fait sentir jusque dans le présent. Les héritiers, les descendants des Cosaques ont oublié leurs racines. Pire encore, ça ne les intéresse tout simplement pas.
Quand les barrières idéologiques sont tombées, ces Cosaques ont cherché à restaurer le mode de vie de leurs ancêtres. Cette ferme centenaire, recréée dans un village près de Essen-Touki, est devenue un musée vivant et une attraction touristique majeure.
Nous avons des visiteurs de toute la Russie. Ils partent avec les larmes aux yeux. Les traditions vivent, la population russe vit et les Cosaques sont vivants.
Chez les Cosaques, les hommes avaient pour tâche de former le caractère des jeunes gens et de les préparer à une vie indépendante. Pour Dimitri, cette façon de faire est toujours pertinente aujourd'hui.
Une nouvelle génération de Cosaques est formée dans les écoles d'État de la région. Elles sont nombreuses à avoir des classes spéciales pour les enfants dont les parents veulent entretenir les valeurs Cosaques. Le programme inclut l'histoire des Cosaques, un entraînement militaire et l'obligation d'aller à l'église. Une foi sincère définit les Cosaques dont la vision du monde est profondément enracinée dans le christianisme orthodoxe.
La devise des Cosaques est pour la foi, le tsar et la patrie. Notez que la foi est placée en premier, c'est le noyau de l'homme. Sans la foi, il est impossible de faire quoi que ce soit. Les Cosaques avaient la foi et la première chose qu'ils faisaient en arrivant à un nouvel endroit, avant de construire leur maison, c'était de construire un temple.
L'archiprêtre, non loin de Volgograd, se déplace en...
Camionnette et son icône arrivent dans la stanitsa de Sotovskaya. Il y a un siècle, c'était un gros bourg de 11 000 habitants. À l'époque soviétique, le village en comptait encore 3 000. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une trentaine. La reconstruction de l'imposante église redonne un peu d'espoir. Et elle a même un nouveau locataire, le prêtre Mikhail. En tant qu'archiprêtre, père Oleg est le supérieur de tous les prêtres officiants dans les stanitsas de l'oblast de Volgograd. Le prêtre Mikhail habite une maison cosaque vieille de 2 siècles. Elle est de forme carrée et comme toutes les demeures cosaques, elle ressemble à une petite forteresse. La véranda, qui fait le tour de la maison, servait d'avant-poste de défense. Père Oleg y passera la nuit. La famille du prêtre Mikhail cultive un lopin de terre. La plupart des villageois sont autosuffisants. Yelena, l'épouse du père Mikhail, sert du thé aux deux prêtres. Père Mikhail espère que la réfection de l'église attirera de nouveaux habitants.
Les Cosaques ont toujours bâti leur église avant de bâtir leur maison autour de l'église. C'est comme ça qu'on doit faire ici. On restaure l'église dans l'espoir d'attirer de nouveaux villageois.
Seuls 10% des Cosaques vont régulièrement à la messe et respectent les règles de l'église comme le carême.
Quand on lui demande s'il se sent un vrai Cosaque, il hésite un peu. La plupart auraient répondu un oui franc et massif.
Je me sens davantage comme un descendant des Cosaques. Pour être un vrai Cosaque, il faudrait que je vive complètement selon la tradition. C'est très difficile aujourd'hui. C'est même impossible. Peut-être que mes enfants y parviendront un jour. Ce serait bien. Pour être Cosaque, il faut être né Cosaque. C'est le cas pour moi. Mais il faut aussi avoir été élevé et vivre comme un Cosaque. Et donc, pour dire vrai, je suis juste un descendant des Cosaques.
Lui est patron du sanatorium du coin. là, il véhicule de jeunes cosaques. Tout le monde est en costume traditionnel, un peu comme des Amish.
Ce groupe, qui attend sur la rive, a également été invité pour la fête cosaque de ce soir. Vladimir les prend à son bord. Ce sont des étudiants, musiciens et chanteurs qui profitent de leurs vacances d'été pour donner un spectacle de chant cosaque. Après avoir revêtu leur costume, ils entament les répétitions.
La seule chose qui soit encore vivante, ce sont leurs chansons, leur culture, leur honneur, leur amour pour la patrie, leur foi orthodoxe et leur patriotisme. Mais vivre comme dans l'ancien temps, ce n'est pas possible.
Je pense que les Russes prennent de plus en plus conscience de ce que les Cosaques ont apporté. Notre pays a besoin d'une idéologie forte, d'une idée positive qui rassemble tous les citoyens. La nation a besoin d'unité. Et de tous les mouvements qui ont lieu en Russie, je pense que c'est la renaissance Cosaque qui est la plus à même de nous offrir tout ça.
Cette caste de guerriers slaves cherche à reprendre sa place dans la société russe. Les Cosaques se perçoivent comme un rempart dans la région turbulente du Caucase du Nord.
Et pas seulement.
Toutes les nations s'entendent bien avec les Cosaques. Nous ne sommes pas des conquérants. Nous sommes des gens très pacifiques qui travaillons de manière pacifique. Si personne ne leur porte atteinte, alors les Cosaques ne feront de mal à personne.
Mais tout de même, guerriers.
Les Cosaques pourront uniquement assurer leur avenir s'ils rétablissent un lien très étroit avec l'Église. Sans ça, ils seront juste un renfort pour la police. Ils assureront la sécurité et l'ordre public, quelque chose dans le genre. Ou ils ne seront qu'un groupe folklorique.
Sympa, hein ?
Certains Cosaques qui reviennent en Russie actuellement, où on est en train de re-encadrer une certaine frange de population, qui deviennent, sous le terme de Cosaques, qui sont un genre de miliciens, de policiers.
Ce remarquable numéro d'adresse exécuté avec un sabre était censé effrayer l'adversaire avant le début des combats.
Faut croire que le résident du Kremlin n'en a pas trop vu la couleur. Cette 20e visite de la saison 5 du Panthéon des Cousus se termine sur les bords du Don. Diffusion le samedi et le lundi à midi. Podcast sur le site radioalpa.com et réécoute libre de l'intégrale des visites dans le Miss Cloud du Panthéon des Cousus. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans entendre ce jeune Ukrainien au volant de sa voiture. En treillis et cuisson jaune et bleu, il chante sur une bande-son. La chanson, c'est « Frères ukrainiens » du groupe Sabre. Elle date de la révolution de Maïdan, quand l'Ukraine a dit non au pouvoir pro-russe. J'ai alterné avec la version originale du groupe en 2014, celle de TikTok en voiture et une en public avec chœur et orchestre militaire. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et surtout gardez le moral, le printemps arrive bientôt.
Не плачте за мною, якщо в полі згину, сидіть там за любу ніньку нашу Україну. Кого душу нашу, віддамо єдину, за
Завітав за любоненьку нашу Україну. Не плачте за мною, якщо в полі згину. Завітав за любоненьку мою Україну.